Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. À trois mois des élections européennes qui devraient voir s'affirmer les droites extrêmes au Parlement européen, quatre émissions sur quatre pays où ces droites radicales ont pris beaucoup d'ampleur. Nous avons parlé lundi de l'AFD en Allemagne, mardi du Fidesz de Viktor Orban en Hongrie, hier des Pays-Bas et Geert Wilders. Aujourd'hui, le parti dit des démocrates de Suède.
Si j'avais dirigé mon entreprise de cette manière, vous pouvez être sûr que le comité de direction m'aurait mis à la porte. Ça a été une très mauvaise gestion de la crise au plus haut niveau. Pour moi, c'est une honte que les dirigeants européens assis sur leur fauteuil à Bruxelles n'aient eu aucun plan véritable pour faire face à l'immigration.
Je pense qu'on n'est pas à l'abri en Suède ni dans les pays nordiques de toutes ces parties de l'extrême droite qui essayent de, disons, ethnifier tous les problèmes économiques, sociaux, même des problèmes de criminalité. Mais ils mettent une couche de l'ethnicité, de culture, etc. sur ces questions à la place de parler de fond.
À cet instant, nous sommes le deuxième plus gros parti politique de Suède. Et notre ambition, c'est de faire partie du gouvernement.
Après ses scores aux élections législatives de 2022, le parti des démocrates de Suède, présidé par Jimmie Åkesson, que l'on vient d'entendre, n'a pas obtenu de portefeuille ministériel, mais c'est tout comme. Les accords de Tidö, signés quelques semaines plus tard avec la coalition de droite et de centre-droit, stipulent que le parti d'extrême droite a, je cite, une influence complète et égale à celle des autres formations au pouvoir. Membre d'un bureau qui valide les décisions ministérielles, les démocrates de Suède ont par ailleurs toujours un représentant à envoyer dans les conférences de presse de tel ou tel ministre. C'est la première fois dans l'histoire suédoise que l'extrême droite contribue à un gouvernement. Une étape au sommet après l'ascension d'abord régulière puis exponentielle du parti que Jimmie Åkesson a transformé en machine de guerre électorale, doublant son score à chaque scrutin. C'est donc une formation aujourd'hui pleine d'allants qui se présente en juin aux élections européennes avec un discours sur Bruxelles qui n'a pas changé. Refus des politiques d'accueil des réfugiés et du pacte vert européen, défense d'une Europe chrétienne, éventuellement Swexit, une sortie de l'Union. À trois mois des élections européennes, ce discours a-t-il infusé dans la société suédoise? Comment le parti a-t-il réagi à l'entrée de la Suède dans l'OTAN? À l'origine ouvertement néo-nazi, comment les démocrates de Suède ont-ils évolué à mesure qu'ils ont élargi leur base électorale? Nous en parlons aujourd'hui avec Johan Åkant. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes enseignant-chercheur et directeur du Centre d'études sociologiques et politiques de l'EHESS. Merci d'être avec nous, ainsi que vous, Anne-Françoise Hiver, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne depuis Lund, en Suède. Vous êtes correspondante régionale du Monde pour les pays nordiques. Anne-Françoise Hiver, pour l'instant, puisque vous êtes en pleine campagne électorale pour les européennes, et il se trouve que dans les trois précédents pays, et même quatre avec la Slovaquie que nous avons évoqué depuis lundi dans cette série, les élections européennes ne sont pas une priorité pour les partis de droite radicale qui ont des stratégies essentiellement nationales. Alors, en Suède spécifiquement, quelle place prennent ces élections européennes dans les discours politiques? Donc en Suède en général et à l'extrême droite en particulier, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous l'entendez cette campagne ?
Ça commence, ça c'était assez, c'était à peu près pareil, enfin comme les pays que vous évoquiez juste avant, c'est-à-dire que c'était pas une priorité pour les partis, surtout qu'ici on a quand même beaucoup été discuter la question de l'OTAN ces derniers temps, qui mobilisait beaucoup des débats, les questions de sécurité, de défense, etc. Mais là on commence à parler de l'Europe, et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement le parti des SD, les démocrates de Suède. qui en parle sans doute le plus avec une intention de montrer qu'ils sont encore capables d'augmenter leur score et de confirmer les résultats qu'ils ont eus en 2022 aux législatives.
Le Parlement européen compte pour l'instant 3 députés néerlandais du groupe démocrate de Suède. Qu'est-ce qu'on sait du Parti démocrate de Suède? Qu'est-ce qu'on sait d'eux et comment ont-ils fait le choix de s'inscrire au sein du groupe Identité et démocratie auquel appartient le Rassemblement national en France? Donc pas à ce groupe-là, mais au groupe ECR, conservateur et réformiste européen, dont fait partie Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni.
Alors c'est en fait il y a 3 députés, mais il y en a vraiment que 2 qui sont SD. 3 ont été élus lors des dernières élections. Alors il y en a un qui a changé parce que c'était Jessica Stegrud qui avait été élue et qui est une figure montante et de plus en plus importante au sein du parti et qui a été élue députée lors des dernières élections législatives. Donc elle a laissé son poste à Johan Nissinen. Un autre des députés qui est Peter Lundgren, lui a été condamné pour agression sexuelle, donc il a été poussé vers la sortie par les SD, donc maintenant il est indépendant, et donc il y a comme troisième, et qui est d'ailleurs le chef de liste, et qui est aussi un responsable des SD important, qui est Charlie Weimars, qui est un ancien conservateur en fait, qui a rejoint les SD, et qui lui siège au Parlement européen depuis 2019. Et donc effectivement, dans le groupe des conservateurs et réformistes européens, c'est quelque chose que le parti voulait depuis le départ parce qu'ils ont pris leur distance dans leur tentative, qui a d'ailleurs été un succès de dédiabolisation, de mettre leur distance avec des partis comme le Front National, avec lequel ils veulent absolument rien avoir à faire pour le moment. Donc ils avaient demandé à rejoindre le groupe des conservateurs et réformistes européens quand ils sont entrés au Parlement européen. Ça leur avait été refusé, mais ils ont pu changer en 2018. Ce dont ils sont ravis parce qu'en plus il y a d'autres partis nordiques qui sont dans ce groupe. Et puis depuis le début de la guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a aussi une volonté de se distinguer des partis du groupe ID, donc notamment le RN, jugé beaucoup trop pro-russe par les SD.
Et ça, Johan Okand, c'est une particularité de l'extrême droite en Suède. Il n'est pas ce parti des démocrates de Suède sur une même ligne relativement pro-russe que les autres partis de droite radicale dont nous parlons depuis lundi, Alternative für Deutschland, le Fidesz d'Orban, le parti de Robert Fico en Slovaquie. On a les invités ont pu toute la semaine raconter leur ligne très pro-russe et très proche du Kremlin, ce n'est pas du tout le cas de l'extrême droite en Suède.
Disons qu'ils ont changé aussi leur fusil d'épaule en cours de route, et opportunément avec la guerre en Ukraine, hein, mais c'était un parti qui n'était pas si anti-russe que cela auparavant, et donc ça fait partie de la stratégie de dédiabolisation que Jimmie Åkesson a menée maintenant depuis qu'il a pris les rênes de ce parti, et ça fait quand même plus de 20 ans, et de se tailler une réputation de parti qui serait à même de gouverner un jour, d'entrer dans une coalition. C'est le cas dans une coalition parlementaire là, depuis les dernières élections. Donc on a effectivement une transformation de ce parti qui Anne-Françoise Hivert a dit, n'hésite pas à mettre dehors ceux qui font un peu trop tâche, hein, et qui ont des discours parfois un peu trop, ou des actes qui sont condamnables. Quand bien même il y a des limites aussi là, parce qu'il y a une stratégie populiste bien assumée, hein, qui fait qu'on est à la fois un pied dans la coalition, mais pas au gouvernement, donc ça permet d'avoir une certaine liberté de parole. Et on l'a bien vu notamment dans le discours sur l'islam, y compris par des personnalités très installées au sein du parti et du Parlement.
Sur la question de la Russie, vous disiez, Johan Okand, que ça fait partie aussi d'une stratégie de dédiabolisation, que d'avoir marqué des distances avec la Russie de Vladimir Poutine depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Néanmoins, est-ce qu'on peut pas aussi se dire qu'on est en Suède dans un contexte particulier? La proximité géographique de la Suède fait peut-être que l'extrême droite est de toute façon sur une position différente d'autres droites extrêmes sur le continent ?
Oui, oui, sans doute. Il y a une distance qui est différente. Mais en même temps, voilà, c'est un parti qui avait des sympathies pro-russes par le passé, ne s'en est pas caché. Donc, mais et qui a quand même assez radicalement changé son discours. Et on le verra sur l'Union européenne. Il y a des choses aussi qui ont beaucoup évolué depuis que ce parti est rentré dans la coalition. Il y a à la fois un discours et puis il y a la manière dont on se comporte au quotidien dans les votes. Au Parlement, et de ce point de vue-là, ce parti a mis beaucoup d'eau dans son vin, malgré ce qu'on peut voir dans les médias actuellement, avec ce début de campagne tardif.
Le Parti des démocrates de Suède, qui a par ailleurs fini par consentir à ce que la Suède rejoigne l'OTAN, cette entrée de la Suède dans l'OTAN a été officiellement annoncée il y a une semaine, le 7 mars dernier, par le Premier ministre Ulf Kristersson.
Today is... As Secretary Blinken said, it's a victory for freedom today.
Aujourd'hui, comme l'a dit le secrétaire d'État Blinken, c'est une victoire pour la liberté. La Suède a fait le choix libre, démocratique, souverain et uni de rejoindre l'OTAN. Ce choix est largement soutenu par notre Parlement et par notre peuple. C'est une force pour la Suède et pour l'Alliance.
Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois. Comment les démocrates de Suède ont participé à ces débats, Johan Åkant, sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN? Ils ont très longtemps, me semble-t-il, défendu le non-alignement militaire de la Suède sur d'autres pays. Finalement, comment ça s'est peu à peu concrétisé?
Ça s'est pas peu à peu, ça s'est assez drastiquement modifié, comme pour presque l'ensemble du paysage politique suédois, avec d'une part la guerre en Ukraine, et ensuite la demande assez abrupte de la Finlande de rejoindre l'OTAN. Et de fait, à ce moment-là, un certain nombre de partis, et notamment celui qui était au gouvernement à l'époque, hein, les sociodémocrates, qui eux n'avaient toujours dit qu'il n'y aurait pas d'adhésion à l'OTAN sous un gouvernement de leur parti, ont modifié leur discours pour suivre la Finlande dans cette demande d'adhésion, qui a pris un petit peu plus de temps, comme vous savez, en raison des réticences de la Turquie et de la Hongrie.
Et ça, là-dessus, sur ces réticences de la Turquie et la Hongrie, alors on rappelle que la Turquie, c'est un des pays qui opposait son veto à l'entrée de la Suède dans l'organisation atlantiste, suite notamment à un auto-da-fé d'un courant en juillet 2023. Comment ces relations-là avec la Turquie ont peut-être modifié le comportement des partis des démocrates de Suède, ou ont pesé dans les discussions avec ce parti d'extrême droite en particulier?
Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que cette affaire-là qui posait problème. Il y avait aussi la question de l'extradition de réfugiés kurdes, et on se retrouvait finalement avec un parti plutôt nationaliste, je ne vais pas dire qui prenait la défense des réfugiés, mais qui d'une certaine manière considérait que la Turquie n'avait pas à s'ingérer dans les affaires suédoises. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu d'autres problèmes inverses, puisque il y a eu aussi des criminels qui étaient recherchés par la Suède en Turquie, et que la Turquie ne voulait pas extrader. C'est assez marrant, parce que les partis nationalistes ont dû un peu modifier leur position maintenant qu'ils font partie de cette équation nouvelle.
On en parlera, de ces guerres entre bandes rivales qui ont d'ailleurs dominé la campagne électorale, des règlements de compte aussi entre factions d'une même bande, la banque Foxtrot, dirigée depuis la Turquie par celui qu'on surnomme le renard kurde. Et en effet, ça a fait partie de la campagne électorale. Mais vous vouliez, Anne-Françoise Hiver, réagir à ce que venait de dire Johan Åkant.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'analyse. Juste une chose qui était assez intéressante aussi sur l'affaire des autodafés, et qui a suscité des discussions sur les véritables motivations des SD sur la question de l'OTAN, c'était que il y a eu quand même des discussions sur l'opportunité d'interdire ces autodafés, ou en tout cas de réguler, de changer, de modifier la loi, ce que le Danemark a fait d'ailleurs. Les démocrates de Suède ont immédiatement dit que c'était une ligne rouge, qu'il était hors de question de le faire. Et puis, on a eu un président de la commission des affaires juridiques au Parlement, qui est Richard Jomshof, qui est une des grandes figures du parti, qui a tweeté plusieurs fois ou fait des déclarations disant que si ça les embêtait, comprendre les musulmans, de brûler un Coran, il fallait en brûler 100. Et donc, ça a conduit quand même certains autres partis, notamment à gauche, puisque la droite ne réagit plus vraiment aux sorties des SD avec lesquelles elle collabore. Donc, les sociodémocrates notamment se sont demandé si les SD n'étaient pas en train d'essayer de s'aborder le processus d'adhésion de la Suède à l'OTAN, sachant que oui, ils ont dit, ils ont accepté, ils ont levé en tout cas leur veto. Mais là, récemment, Jimmie Åkesson, dans une interview qu'il a donnée ce week-end au journal Sydsvenskan, rappelait que il aurait préféré, son parti aurait préféré rester non aligné militairement. Donc, en gros, il disait que c'était une position pragmatique, mais qui ne le satisfaisait pas complètement.
Alors, intégrer l'OTAN, il y a finalement consenti, mais peut-être quitter l'Union européenne. Est-ce qu'il est encore question, Johan Okand, de Swexit, ou comme Geert Wilders disait aux Pays-Bas, il parle de Dexit, lui il l'a abandonné. Est-ce que le Parti des démocrates de Suède a abandonné l'idée du Swexit?
Alors, en fait, c'est un discours qui va et qui vient au gré des campagnes électorales. On en avait déjà eu quelques éléments plutôt au milieu des années 2010. C'est une rhétorique qui est utilisée régulièrement en campagne. Elle a été abandonnée lors des dernières européennes. Là, elle ressurgit un peu. Mais alors que le parti, comme je disais, dans les votes au Parlement suédois sur l'Europe, c'est presque totalement aligné sur la coalition majoritaire et que auparavant il avait énormément de réserves. Je crois qu'il en avait lors de la dernière mandature plus de 25. Là, on est passé à 4. Et donc c'est assez paradoxal, mais en même temps ça c'est de bonne guerre. C'est la possibilité d'utiliser un registre populiste sur l'Union européenne qui est un ennemi facile d'essayer de gagner des voix. Les démocrates de Suède ne sont finalement plus très favorables à quitter l'Union européenne. Ils n'ont pas tellement les moyens. L'Union européenne est un partenaire très important de la Suède. De ce point de vue, sur le plan commercial, je veux dire. Et il y a eu le moment Brexit, évidemment, qui a changé un petit peu les choses. On l'a vu, il y a eu un vent de Brexit qui a soufflé au Danemark et un peu en Suède. Mais c'est quand même retombé. On voit aussi l'impact qu'a pu avoir le Brexit sur le Royaume-Uni, sur le plan économique, sur tout un tas de plans. Et je pense les Suédois sont très défavorables à quitter l'Union européenne. Donc le discours est opportuniste, mais en même temps, ça va pas très loin.
Anne-Françoise Hivert, dans une tribune de presse en février, le président des démocrates de Suède, Jenny Kesson, a annoncé qu'il voulait retirer de la Constitution la mention de l'adhésion de la Suède à l'Union européenne. De quoi parle-t-il exactement? Quelle réaction ça a suscité et dans la société suédoise et au sein de la coalition gouvernementale dont on rappelle que les démocrates de Suède coopèrent avec cette coalition?
Oui, c'est ce que dit Johan Okand, c'est-à-dire que il y a ce genre de déclaration tonitruante dans un contexte particulier au moment de la campagne, etc. La vérité, c'est que ça a pas suscité de débat du tout en Suède, en fait, parce qu'on est habitué à ce genre de propos et qui sont sans conséquence et que une très large majorité de la population suédoise veut rester au sein de l'Union européenne, donc ça a été considéré comme une manœuvre purement politique. Sans espoir en plus de l'avoir se concrétiser. Les dernières propositions, c'est qu'à chaque fois que alors ils visent la France et l'Allemagne et leur tentative de fédéraliser l'Union européenne, etc. Donc Jimmie Åkesson propose d'organiser ou veut organiser un référendum à chaque fois qu'une décision sera prise à Bruxelles qui pourrait réduire la souveraineté de la Suède. Mais alors c'est très très vague. On ne sait pas de quoi il s'agit, et là encore, ce n'est pas repris. C'est comme si c'était de bonne guerre de l'entendre dire ce genre de choses, et voilà, ça satisfait probablement ses électeurs, mais c'est tout en fait.
À chaque fois que ce parti dénonce la tentative de Bruxelles de limiter la souveraineté suédoise, il mentionne toujours deux points en particulier qui sont l'exploitation forestière et la consommation de snus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, Johan Okand?
Oui, effectivement, parce que c'est le genre de choses qui avait fait partie des débats sur les exemptions de Maastricht. Et on sait que le Danemark a réussi à négocier un certain nombre d'exemptions, en particulier sur la politique d'asile. Et ça, c'est un point très important de comparaison avec la Suède. La Suède a réussi, elle, par référendum, à ne pas rentrer dans l'euro, ce qui n'était pas prévu selon les termes de Maastricht. C'est déjà une chose quand même très très importante. Mais on sent qu'effectivement, les démocrates de Suède visent un peu une politique à la danoise, l'idée qu'il faudrait ratifier par référendum, redonner le pouvoir au peuple dès qu'il y a des atteintes à la souveraineté trop importantes de l'Union européenne.
Et notamment sur les forêts, puisque la Suède est couverte à 70% par la forêt et refuse de servir de... Enfin, le parti des démocrates de Suède refuse de servir de poumon commun à toute l'Europe sous prétexte que leur pays est peu densément peuplé. Et puis sur la consommation de snus, c'est ce sachet de nicotine que les consommateurs glissent contre leurs gencives. Il y a beaucoup de footballeurs qui en prennent d'ailleurs et c'est interdit dans le reste de l'Union européenne. Voilà, donc c'est sur ces sujets-là qu'ils mettent toujours en avant. Mais plus généralement, les démocrates de Suède ont déjà prévenu que lors du prochain mandat du Parlement européen, les députés se battraient contre les nouveaux transferts de pouvoir censés être débattus, contre l'augmentation des taxes européennes. Peut-être, Anne-Françoise Hivert, que l'enjeu de ces élections européennes est surtout pour eux national. S'ils réussissent à prolonger leur succès électoral 2022, ils auront plus de poids encore auprès du gouvernement de coalition.
Oui, ça fait aucun doute, surtout que le discours actuellement de Jimmie Åkesson et puis des leaders du parti, c'est de dire qu'après les prochaines élections, il vise le poste de Premier ministre, donc il prépare la population à ce scénario, alors qu'avant, le discours était plutôt de dire que les postes n'étaient pas importants, ce qui comptait, c'était l'influence politique, c'est ce qu'il continue à dire aujourd'hui, mais en estimant que il aura tenu 4 ans comme soutien et puis partenaire en fait de la coalition gouvernementale et donc que ça suffit et après tout son parti enfin, c'est ça aussi l'enjeu des élections, son parti est arrivé deuxième, premier parti de la nouvelle majorité de droite libérale conservatrice donc devant le parti conservateur aux dernières élections, c'est ce qu'il espère réaliser encore à ces élections. Il faut savoir aussi quand même que la chose européenne en Suède est assez peu discutée et que peut-être les élections, l'enjeu il est national en fait pour tous les partis suédois avant d'être européens. On parle peu de l'Europe, l'Europe intéresse peu les Suédois, il y a peu de Suédois par exemple au niveau des institutions européennes, ce qui est d'ailleurs un problème en termes d'influence. Les eurodéputés suédois, peu importe les partis d'ailleurs, pas juste SD, ne comptent pas. Aucun des députés suédois, eurodéputés suédois, ne figure parmi les 100 députés les plus influents au Parlement européen. Donc là, il y a aussi un problème qui est beaucoup plus général et qui dépasse de loin la question des démocrates de Suède.
Johan Okrant ?
Oui, non, c'est vrai que c'est une question tout à fait. Enfin, Anne-Françoise Hivert a raison de souligner cela, que c'est une question de rapport de force électorale qui se pose en vue des prochaines élections législatives et entre les sociaux-démocrates d'un côté qui ont repris du poil à la bête, hein, ils sont à 35% dans les sondages, ce qui est un score quasi historique depuis les années 90, et puis les autres partis de la coalition. Parce que là, les rares sondages qu'on peut avoir sur les élections européennes, ils sont pas forcément ultra fiables. On voit bien que les petits partis de la coalition sont en perte de vitesse. Et vous savez qu'il y a une barre de 4% pour entrer au Parlement en Suède. Donc le jour où ils passent en dessous des 4%, ça posera un problème. De l'autre côté, les démocrates de Suède sont toujours confirmés comme le deuxième parti. Et ils ont dit clairement qu'ils ne passeraient pas 4 ans de plus hors du gouvernement. La prochaine fois, il faudra effectivement qu'ils aient des postes ministériels, à minima.
Alors avant de vous demander quand, comment, pourquoi la droite suédoise classique, conservatrice, a franchi le pas de travailler avec l'extrême droite, comment la définir d'abord cette extrême droite-là, le parti des démocrates de Suède ? Anne-Françoise Hivert, il se trouve que vous vivez à Lund, donc dans le sud de la Suède, et c'est pas loin du berceau du parti.
Oui, effectivement, c'est ici dans la région de Scanie au sud de la Suède que le parti a d'abord connu ses premières heures de gloire avec les premières communes où il est rentré au conseil municipal, donc il y a plus de 20 ans maintenant. C'est ici aussi, alors c'est à Lund que qu'il s'est refondé, d'une certaine manière, que les 4 personnalités du parti qui sont encore à la tête des SD aujourd'hui, avec Jimmie Åkesson notamment, ont établi une stratégie stratégie au début des années 2000 qui était de faire de ce parti qui a vraiment était en dehors de la scène politique suédoise, enfin, qui est rentré au Parlement en 2010 et qui était considéré comme totalement infréquentable, un petit groupe d'extrême droite avec lequel personne ne voulait avoir affaire, et ont décidé d'en faire un parti traditionnel, respectable, et puis avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Alors, en Suède, on ne parle pas d'un parti d'extrême droite. Ils ont réussi à faire en sorte que on n'utilise pas cette terminologie qui est aussi réservée, en fait, au mouvement identitaire, au mouvement néo-nazi, puisqu'on a pas mal d'organisations de ce genre dans le pays. Eux, ils se présentent comme un parti national conservateur. Donc, ils refusent, par exemple, qu'on les associe au RN, alors que le programme, la rhétorique aujourd'hui, ne se différencie pas du tout du Rassemblement national. Donc voilà, c'est un parti nationaliste conservateur, certes, mais aussi contre l'immigration, de plus en plus qui prône la lutte contre l'islam. Les musulmans croyants sont des islamistes, dit Jimmy Åkesson le week-end dernier dans le journal Sydsvenskan. Et donc c'est à ce parti qu'on a affaire aujourd'hui.
Donc un parti qui a du mal à revenir un peu sur ses racines et à en convenir. Alors on peut le faire pour eux, c'est un parti qui a été fondé en 88, c'était un groupuscule qui était ouvertement néo-nazi à l'époque, composé de skinheads, dirigé par Anders Klarström, qui avait lui-même milité au sein du parti du Reich Nordic, un groupuscule néo-nazi. Un autre avait été volontaire au sein de la Waffen-SS. Ils ont pu se développer en toute sérénité grâce à l'histoire aussi particulière de la Suède, Johan Åkant, la Suède qui a échappé à l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Le président du parti aujourd'hui, Jimmy Åkesson, est-ce qu'il est issu de cette génération-là ?
Non, il est plus jeune, donc il est arrivé plus tardivement, dans les années 90, au moment où le...
Et c'était déjà plus ce parti.
Voilà, où ce parti avait commencé sa transformation, mais effectivement, il avait toujours certains oripeaux issus de cette nébuleuse radicale, néo-fasciste, qu'on toujours vivace en Suède, qui est un peu groupusculaire, hein, mais et donc il a présidé à cette transformation au début des années 2000 en évinçant un certain nombre de, bon, ça avait déjà commencé dans la deuxième moitié des années 90, mais en évinçant un certain nombre de membres trop radicaux, et puis en se donnant un profil plus acceptable.
Déjà en 96, on interdit le port des chemises brunes dans les rassemblements, les drapeaux nazis ou fascistes.
Ça a pris beaucoup de temps. Hein. Voilà, c'est un parti, comme vous disiez, qui est né fin des années 80, début des années 90, et il a fallu quand même 30 ans. Il est différent des autres partis d'extrême droite d'Europe du Nord, de ce point de vue, qui ont des origines tous assez différentes de celui-ci. C'est le seul qui est issu d'une nébuleuse très radicale, de ce point de vue. Et donc, ça lui donne une coloration particulière, même si finalement, il s'est rapproché progressivement de la variante qu'on peut trouver au Danemark et qui est un peu son exemple aussi, hein, le parti du peuple danois à l'origine.
L'islam n'est pas seulement une religion, mais un système de valeurs où les saintes écritures dictent chaque petit détail de la vie de chacun. La Suède est une société très laïque et il est difficile de réunir ces valeurs médiévales avec la société suédoise. Unir les opinions musulmanes sur les femmes à la loi suédoise sur l'égalité, c'est une impossibilité absolue.
Jimmy Åkesson dans un entretien pour le média Brut, et c'était déjà en 2018, donc bien avant que le chef du Parti des démocrates de Suède ne dise, comme vous le disiez Anne-Françoise Hiver le week-end dernier dans un journal suédois, que tous les musulmans sont des islamistes, si j'ai bien compris les propos qu'il a tenus. Aujourd'hui, ces obsessions-là, cette rhétorique, comment ont-elles infusé dans la société suédoise, mais aussi sur tout le spectre de la classe politique suédoise, jusqu'à ce que ce parti devienne aujourd'hui fréquentable aux yeux d'abord des partis de droite traditionnels qui ont signé avec lui cet accord de coalition.
Alors, il a dit tous les musulmans pratiquants sont, voilà, juste pour lui, pour préciser, sont des islamistes. Donc, c'est comment ces idées ont infusé ? Ben, elles infusent très bien, c'est-à-dire que Il y a eu une. Ce qui s'est passé avant 2018, disons, quand les autres partis refusaient de collaborer avec les SD, ce qui a d'ailleurs permis à la gauche de revenir au pouvoir en 2018 après 6 mois d'incertitude, parce que les partis de droite ont fait le choix de ne pas travailler, de ne pas passer d'accord de coalition avec les SD. Avant cette période, avec l'objectif de finir par faire une coalition avec la droite, le parti des démocrates de Suède a vraiment tempéré son discours. Ça, avec des exceptions lors des campagnes électorales, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une radicalisation avec un retour à ce discours extrêmement agressif, notamment sur l'islam, les musulmans. Actuellement, les SD se présentent comme le plus grand soutien d'Israël en Suède. Jimmie Åkesson, dans ce même interview que je faisais référence dimanche, défend le droit absolu d'Israël à défendre son territoire, et c'est clairement aussi perspective de s'opposer aux musulmans et de tenir, ce qui lui permet d'ailleurs de tenir, ou aux autres dirigeants du parti, de tenir des propos islamophobes. On voit une rhétorique ou des discours de plus en plus sur les théories du grand remplacement, l'islamisation de la société, etc. Donc là, ils vont bien plus loin que les autres. Mais on voit que ces idées, elles commencent à infuser d'autres partis, les autres partis politiques, à droite, la gauche moins. Mais c'est voilà, une rhétorique qu'on entend de plus en plus souvent, qui est acceptée, acceptable, alors que c'était inimaginable il y a encore quelques années en Suède.
Donc leurs idées infusent, qu'en est-il de leur programme, Johan Åkant? On rappelle que ce parti n'est pas officiellement au pouvoir, n'a pas de poste ministériel, mais qu'il a un vrai poids sur les politiques à la faveur, entre guillemets, des accords de T2 qui datent du 14 octobre 2022, donc juste après les élections législatives, qui stipulent que les démocrates de Suède ont une influence complète et égale à celle des autres formations de la coalition de droite. Jusqu'où aujourd'hui les ministres appliquent son programme, le programme du Parti des démocrates de Suède?
Je voulais revenir rapidement sur cette infusion dans la société suédoise. Il y a un paradoxe quand même. On est face à une société qui est aussi un gouvernement qui, pendant longtemps, ont représenté l'accueil le plus libéral des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et il y a encore, il faut pas l'oublier, un soutien important de la population suédoise, comme d'ailleurs au Danemark, vis-à-vis de ce genre de politique.
On en parlera d'ailleurs plus précisément dans le focus sur les politiques.
Mais de fait, là, il y a un vrai paradoxe. Et on voit que là, on est dans un scénario un peu à la danoise avec 20 ans d'écart. Ce qui s'est passé au début des années 2000 se passe aussi en Suède progressivement, avec cet impact, cette influence des idées nationalistes sur une partie du spectre politique. Bon, en Danemark, c'est allé jusqu'à la gauche. Pour l'instant, c'est pas autant le cas en Suède, mais ça a pris du temps.
Sur une partie de la droite, notamment cette nouvelle génération de militants qui partagent les valeurs prônées par les démocrates de Suède, comme ici ce jeune Ludvig, un élu local du parti Les Modérés, donc parti politique libéral conservateur.
La criminalité a augmenté en Suède et beaucoup de jeunes sont touchés par ce phénomène. C'est une des raisons, entre autres, pour laquelle les gens votent pour les partis de droite et pour les démocrates de Suède aussi. Les jeunes ont très souvent des camarades de classe qui militent ou qui au moins soutiennent les démocrates de Suède.
Alors de quoi parle-t-il Ludvig Film, élu local du parti Les Modérés? Donc ce n'est pas un membre du parti des démocrates de Suède, mais manifestement il est très séduit aujourd'hui par leur programme. Son parti à lui, il fait partie au Parlement européen du PPE, donc la droite traditionnelle. On entend bien que ces idées du parti des démocrates de Suède infusent dans toute la classe politique. De quoi parle-t-il Anne-Françoise Hiver quand il parle de l'insécurité? Parce qu'on l'a évoqué très rapidement, mais c'est un sujet qui a pris énormément de place dans la campagne des législative, et là qui est toujours très d'actualité pour les européennes, cette insécurité, ces guerres entre bandes rivales, beaucoup à Stockholm, mais est-ce que c'est le cas aussi à Lund où vous vous trouvez par exemple?
Alors, c'est le cas, oui, c'est le cas, c'est le Lund, pas vraiment, c'est une petite ville universitaire, c'est juste à côté de Malmö. Donc, Malmö, c'était l'endroit où on a commencé à voir ce genre de phénomène il y a 15-20 ans, avec aussi une importation du continent européen, c'est-à-dire la drogue qui arrivait par le Danemark, par l'Allemagne, qui arrivait vers le sud de la Suède. C'était des gangs qu'on trouvait au Danemark qui sont arrivés aussi en Suède. C'est aussi lié, même si la droite préfère ne pas en parler, à une ségrégation sociale, une ségrégation en termes de logement, une ségrégation scolaire qui est très importante en Suède, qui l'était déjà très tôt à Malmö parce qu'il y a eu une très forte immigration. C'était une ville industrielle qui allait mal. Au début des années 90, il y avait énormément de logements libres, etc. Donc on a mis là les réfugiés qui arrivaient d'ex-Yougoslavie par dizaines de milliers, donc avec une ségrégation qui a posé problème par la suite. On a commencé à avoir l'insécurité qui a été assez rapidement liée au sujet de l'immigration, mais on parlait à ce moment-là d'un problème de Malmö, sauf que ce problème qu'on n'a pas réglé s'est propagé dans toute la Suède. Malmö n'est vraiment plus la ville où on a le plus de violence. Donc de quoi on parle, c'est des fusillades, c'est des explosions, c'est une guerre entre différents gangs effectivement issus de l'immigration et une incapacité de la police à résoudre les affaires, à résoudre des meurtres, à résoudre des crimes, etc. Une criminalité aussi qui a pris en fait de l'ampleur. Ces 10-15 dernières années et qui continue de se nourrir parce que on résout pas les problèmes sociaux. Donc ça, c'est ce que dit la gauche. Pour la droite, la solution, et l'extrême droite évidemment, la solution, c'est le tout punitif. Donc on est en train de changer énormément de lois, on essaie de changer énormément de lois pour durcir les peines, pour permettre plus d'arrestations, mettre plus de gens en prison, etc. Mais ça, c'est un sujet qui a été très important et je pense que là, je voulais revenir sur ce que disait
en quelques mots, s'il vous plaît, oui. Je vous en prie.
Oui, qui comparait la situation au Danemark. Et effectivement, on suit le modèle danois quelque part, mais avec, en accéléré parce qu'il y a ce problème qui est vraiment important et qui cause un sentiment d'insécurité au sein de la population et qui a alimenté le vote pour la droite et l'extrême droite lors des dernières élections.
Et ce qui a alimenté aussi le vote pour la droite et l'extrême droite, ce sont les menaces du terrorisme islamiste qui existent. Il faut le dire aussi, Johan Okandt, cet attentat commis le 16 octobre 2023 par un Tunisien qui a tué deux supporters de foot suédois. Comment le Parti des démocrates de Suède a réagi? Comment la société entière a réagi?
Oui, bon, c'est vrai que cette question du terrorisme, elle a été importante. La Suède en a été relativement préservée, mais on avait vu, par exemple, au Danemark en 2005, l'affaire des caricatures de Mahomet qui était partie de publication de ces caricatures dans un journal danois. Ça a aussi mis le feu aux poudres et ça polariser les positions des partis sur ce sujet. Il y a une sensibilité beaucoup plus forte maintenant et un sentiment de vulnérabilité hein, qui on sait ce qui s'est passé en France et dans d'autres pays, et donc là les médias mettent l'accent sur ce point-là. Il y a un des succès véritables des nationalistes a été de faire un amalgame complet entre immigration, violence criminelle, terrorisme aussi et les problèmes d'intégration sociale dans le pays.
Un lien direct entre insécurité et immigration dans les mots. Et sur ce sujet, le gouvernement suédois suit assez scrupuleusement, il faut le dire, le programme de l'extrême droite. On en parle dans un instant avec la chercheuse Fanny Christou. Vågar du släppa taget fast du lever för någon annan? Att vara älskad och få ge någonting tillbaks, fast alla andra säger du finns inte kvar. Vågar du släppa taget? Jag behöver inte dig idag. Behöver inte dig idag. Och nu letar jag mig tillbaks. Struntar i finns i mig, gör att jag kan bli fri från dig.
att nu var ensam i den kärleksdröm som var. Men vi två är aldrig sanna. Jag behöver inte dig idag. Behöver inte dig idag. Och nu letar jag mig.
La chanteuse suédoise Clara Klingenström, une chanson qui date de 2021 où elle raconte une personne qui comptait beaucoup pour elle et qui ne représente plus rien aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui, c'est le titre de sa chanson. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les partis d'extrême droite, prêts dans toute l'Europe à investir le Parlement européen dès le mois de juin prochain. Nous sommes toujours avec nos invités, le chercheur Johan Okand et la journaliste Anne-Françoise Hiver, correspondante du journal Le Monde pour les pays nordiques. Tous deux nous ont raconté comment le parti dit des démocrates de Suède pèse aujourd'hui sur le gouvernement de coalition de droite. Sur son sujet de prédilection, l'immigration, il a largement imposé son programme.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je pense que nous savons tous qu'avec le nouveau gouvernement en place, c'est comme au revoir. La Suède est pleine, nous ne voulons pas plus de monde. Ce qui est malheureux car nous étions un pays très accueillant et généreux. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les lois sur l'immigration deviennent de plus en plus dures. Et oui, c'est malheureux. Je vous conseille de ne pas venir parce que ce n'est pas plus accueillant d'être ici.
Depuis que la coalition de droite soutenue par l'extrême droite gouverne la Suède, la politique migratoire s'est encore durcie. La ministre de l'immigration assurant être déterminée à éradiquer ce qu'elle appelle la société de l'ombre. Bonjour Fanny Christou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Malmö dans le sud de la Suède. Vous êtes chercheuse au Swedish Institute of International Affairs à Stockholm et enseignante à l'université Southern Denmark à Odense. Alors après l'arrivée très importante d'immigrés dans toute l'Europe en 2015, la Suède, pays de 10 millions d'habitants, avait accueilli 163 000 demandeurs d'asile et déclaré dès l'année suivante que ce n'était plus possible. Quelles mesures avait déjà prises le gouvernement suédois, qui n'était pas à l'époque la coalition de droite au pouvoir en ce moment, mais la gauche social-démocrate?
Alors en 2015-2016, effectivement, il y a eu plusieurs réformes qui ont été prises et elles étaient surtout destinées à réformer aux frontières, j'ai envie de dire, de la Suède. Notamment la première en novembre 2015 qui a été de fermer la frontière entre le Danemark et la Suède, donc particulièrement à Malmö, et justement limiter l'afflux entre guillemets de demandeurs d'asile.
À et la puis ensuite, avec...
Puisque c'est par là que les migrants arrivaient. Et puis deux ans plus tard, en 2018, il y a eu beaucoup de mesures qui ont déjà été prises, comme la généralisation des permis de séjour temporaires de 3 ans, qui étaient auparavant permanents, les limites apportées pour le regroupement familial, par exemple. Ou encore l'instauration d'un quota de 14 000 réfugiés par an, ce qui était 2 fois moins qu'en 2017.
Alors, quand advienne les législatives de 2022, cet accord entre parti de droite et parti d'extrême droite des démocrates de Suède, comment se déroulent les négociations précisément sur la politique migratoire?
Donc, c'est avec l'accord de Tido qui a été adopté le 14 octobre 2022. Déjà, peut-être quelques chiffres. En 2015, donc, il y avait 163 000 demandes d'asile. En 2023, on n'est plus qu'à 12 600 demandes d'asile. Donc on voit très bien qu'il y a déjà des premiers effets de ces réformes restrictives. Et par ces accords de Tido, finalement, on est dans la volonté de fermer les frontières, mais aussi de mettre en place des mesures en interne, au niveau national, de plus en plus restrictives par rapport aux demandeurs d'asile, mais aussi par rapport à des politiques de retour.
Des mesures annoncées par la ministre de l'Immigration, Maria Stengard, certaines sont encore en discussion, mais beaucoup ont déjà été mises en place. Des mesures pour, dit-elle, éradiquer la société de l'ombre. C'est ça, c'est la bonne traduction de l'expression qu'emploie la ministre?
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire
éradiquer
exactement?
Éradiquer la société de l'ombre, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être vous parler de quelques mesures pour montrer ça. D'un côté, par exemple, dans cet accord est stipulée la possibilité d'obliger certaines municipalités et d'autres autorités qui rentreraient en contact avec des personnes sans papier à en informer l'agence suédoise des migrations et ou la police. Donc pour limiter l'afflux des demandes d'asile et puis pour essayer aussi de déporter certains migrants. Et limiter cette société de l'ombre, ça fait référence aussi à l'expulsion de citoyens étrangers en Suède pour mauvaise conduite. Et dans ces mauvaises conduites, c'est non seulement par exemple l'association avec des gangs criminels ou avec des organisations terroristes, mais c'est aussi toutes les personnes qui seraient endettées, toxicomanes ou en lien avec la prostitution, par exemple. Donc ça, c'est un moyen de faire face à la société de l'ombre.
Un mode de vie malhonnête, c'est je crois l'expression employée aussi. Cette obligation faite aux employés du secteur public de dénoncer en fait les sans-papiers avec lesquels ils sont en contact et dénoncer justement aujourd'hui cette mesure est refusée par les syndicats d'enseignants, de médecins, d'assistants sociaux qui ont déjà dit qu'ils refusaient de participer à une société de la délation, comme ils disent. Un mot aussi sur l'augmentation du salaire minimum requis pour demander ou pour conserver un visa de travail pour les ressortissants non européens. Combien est-ce qu'il faut gagner par mois pour espérer pouvoir rester en Suède aujourd'hui ?
À la base, c'était 13 000 couronnes, c'est-à-dire 1100 euros à peu près. Et depuis le 1er novembre, c'est passé à 27 360 couronnes, c'est-à-dire 2400 euros. Et dans la proposition stipulée par cet accord de Tido, on arriverait à 100% du salaire médian suédois, c'est-à-dire 34 000 couronnes à peu près. Donc 3 000 euros pour pouvoir obtenir un visa de travail et espérer rester dans le pays.
Alors que beaucoup de ces migrants ou demandeurs d'asile aujourd'hui travaillent dans des secteurs comme l'agroforesterie, l'agriculture ou la restauration des travaux, ils ne peuvent bénéficier de ce salaire-là. Alors les politiques suédois parlent de société de l'ombre, de société parallèle, un peu sur le modèle de Pim Fortuyn dont on a entendu une archive hier qui parlait en 2002 aux Pays-Bas d'une cinquième colonne. Sur le pacte européen sur la migration et l'asile, cette fois, qui a fait l'objet en décembre d'un accord du Conseil et du Parlement européen. Les États membres s'en sont saisis. Dans le cas de la Suède, Fanny Christou, comment est-ce qu'elles ont été menées, ces négociations ? Comment ont pesé les démocrates de Suède, dont on a dit l'importance de leur poids auprès de cette coalition ?
Je pense que la participation des démocrates de Suède, elle révèle peut-être un certain paradoxe d'un point de vue européen et d'un point de vue national. D'un côté, ils sont opposés à ce pacte européen parce qu'ils sont eurosceptiques, parce qu'ils estiment que c'est une version trop libérale de la migration. Mais d'un autre côté, tout ce qui est adopté au niveau national, c'est véritablement dans une restriction de la migration, ce qui est aussi un petit peu indirectement ce qui se fait à travers ce pacte des migrations. Diminuer la migration et favoriser le retour et les expulsions. Donc finalement, l'agenda politique des démocrates de Suède, il se retrouve bien dans ce pacte, même si eux-mêmes estiment que ce pacte est trop libéral encore.
Et comment la Suède contribue quand même à contribuer à l'effort commun malgré tout, c'est-à-dire malgré aujourd'hui les décisions prises par le gouvernement de Suède sur la pression des démocrates de Suède, du parti d'extrême droite, comment la Suède aujourd'hui continue à la fois accueillir des migrants sur son territoire, examiner des demandes d'asile et financièrement aussi participer ?
Ah ben, elle le fait de moins en moins, parce qu'il y a vraiment une volonté de restreindre les demandes d'asile et l'accueil des migrants. Et ça se voit tous les jours, j'ai envie de dire, à travers toutes tout ce qui est mis en place pour soit faire peur, soit essayer de restreindre au plus possible l'accueil.
Et notamment une mesure qu'on n'a pas mentionnée, mesure spécifique pour quadriller le territoire à la recherche des sans-papiers qui ont disparu dans la nature ou qui sont sous l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il y a l'augmentation des contrôles d'identité dans certains quartiers et les policiers sont autorisés à prélever un échantillon ADN, fouiller le téléphone aussi de ceux qui refusent de coopérer. Merci beaucoup Fanny Christou d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheuse au Swedish Institute of International Affairs à Stockholm et enseignante à l'Université Southern Denmark à Odense. Alors vous étiez en direct de Malmö dans le sud de la Suède. Johan Aucamp, une réaction à ce qui vient d'être dit et aussi sur la façon dont ce discours spécifiquement sur l'immigration a infusé lui aussi dans la société et la politique suédoise.
Deux choses, je crois que Fanny Christou est spécialiste des réfugiés palestiniens et avec le soutien des nationalistes à la politique israélienne actuellement, on se demande s'ils ne se tirent pas une balle dans le pied parce que des migrants palestiniens ou des demandeurs d'asile, il va y en avoir un certain nombre.
Bah attendez, on va lui demander, parce que vous êtes encore avec nous, Fanny Christou, sur cette question des réfugiés palestiniens.
Oui. Alors, c'est très compliqué, d'autant plus que la Suède a reconnu il y a 10 ans l'État palestinien. Et maintenant, 10 ans plus tard, s'en sert en quelque sorte pour éventuellement justifier la déportation de Palestiniens, notamment à Gaza, qu'il estimait encore jusqu'à quelques semaines comme étant une zone tout à fait normale pour pouvoir y retourner.
Donc le renvoi chez eux.
Voilà, donc beaucoup de Gazaouis, mais aussi de Palestiniens, sont effrayés évidemment par cette politique migratoire.
Johan Aucamp.
Ouais. Non, c'est un vrai problème. Et moi, je conclurai aussi en rappelant, vous l'avez dit, l'immigration, c'est aussi stratégique dans un pays qui est vieillissant, comme dans d'autres pays européens. Il faut rappeler que les personnes issues de l'immigration composent à peu près 50% de la main d'œuvre des transports publics en Suède. Les trois quarts des personnes qui travaillent, des aides-soignantes qui travaillent dans le secteur des personnes âgées, par exemple, du grand âge. Qui est le principal employeur aujourd'hui en Suède. Donc faites sans immigration et vous allez voir ce que ça va donner.
Mais où ils ne gagnent pas des secteurs, où ils ne gagnent pas le minimum requis pour aujourd'hui pouvoir demander ou conserver un visa de travail. Anne-Françoise Hivert, sur cette question-là, dans les derniers jours, là, juste avant la campagne des européennes, est-ce que ce sujet-là est à nouveau sorti de façon flagrante dans les médias, dans les discours?
Non, enfin, il y a eu une tribune récemment qui a été écrite, signée par des intellectuels suédois qui met le doigt sur ce point, le fait que la Suède est dépendante des personnes nées à l'étranger, et donc, qui représente quand même, c'est 20% hein, des résidents suédois actuellement, des personnes qui résident en Suède sont nées à l'étranger. Donc toutes ces politiques risquent d'avoir des effets extrêmement pernicieux pour le pays, mais on a plutôt un alignement des autres partis, on en a déjà parlé, de la droite, mais aussi de la gauche. On voit les sociodémocrates qui ont beaucoup de mal à s'opposer à ce discours de la droite et de l'extrême droite, un peu sur le modèle danois, en voyant que peut-être la gauche doit changer de fusil d'épaule sur ces questions-là pour espérer revenir aux
affaires. Merci beaucoup Anne-Françoise Hivert, correspondante régionale du Monde, du journal Le Monde pour les pays nordiques, d'avoir été avec nous depuis Lund en Suède. Tous vos articles sont bien sûr à retrouver sur le site du Monde. Merci Johan Aucamp, enseignant-chercheur et directeur du Centre d'études sociologiques et politiques de la HESS, d'avoir été avec nous. Les partis d'extrême droite à la veille des élections européennes, les 4 épisodes de notre série sont disponibles en entier sur la page de Culture Monde sur le site de France Culture. Tout de suite, c'est le Revue de presse internationale de Catherine Dutu.
France Culture, la Revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Restez avec nous, Johan Aucamp, ça va vous intéresser. Le Danemark va augmenter ses dépenses militaires et allonger la durée de son service.
Nous nous réarmons parce que nous voulons éviter la guerre. C'est ce qu'a déclaré la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen hier, car les tensions en Europe se sont accrues depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, soulignent les quotidiens danois Rulandsposten et Politiken. C'est pour cela que le Danemark met le paquet sur le plan humain et financier afin de renforcer sa défense, explique la chaîne télévisée danoise TV2. Le service militaire va ainsi passer de 4 à 11 mois pour accroître les compétences des conscrits. Leur nombre passera dans les prochaines années de 4700 appelés actuellement à 5000 sur la base du volontariat, comme c'est le cas depuis 2012, rappelle la BBC. Mais il sera également possible d'organiser un tirage au sort pour atteindre ce nombre avec, à ce moment-là, un service militaire obligatoire pour les tirer au sort. Hommes et femmes à égalité dans cette nouvelle conscription, insiste la première ministre Mette Frederiksen, citée par le le journal Rolandsposten. Des investissements massifs doivent aussi être réalisés dans les équipements, défense aérienne, chars, véhicules blindés de transport de troupes, torpilles capables de frapper les sous-marins russes, énumère le journal danois BT. C'est pourquoi le gouvernement va augmenter le budget de la défense de 40,5 milliards de couronnes, soit près de 5,5 milliards d'euros lors des 5 prochaines années. Allez, quelques chiffres encore, Julie. Cela représente 2,4% du PIB danois, aide à l'Ukraine incluse, et c'est plus que l'objectif fixé par l'OTAN à ses membres de dépenses militaires à 2% du PIB.
Det er jo vigtigt at skelne mellem de spidse operationer som det vi har prøvet tidligere, eksempelvis i Irak.
Il est important de faire la distinction avec les opérations spécialisées que nous connaissons en Irak, en Afghanistan et dans les Balkans, a déclaré la première ministre danoise sur TV2 hier soir. Lorsque nous parlons de la défense de l'OTAN sur le flanc Est ou dans les pays baltes, un conscrit ou une conscrite pourrait y être intégré, assure Mette Frederiksen. Reste à savoir si les autres partis danois suivront la première ministre social-démocrate.
Umiddelbart så ser jeg det som en naturlig udvikling af at vi har de her sikkerhedspolitiske trusler med Rusland og så videre.
Je considère qu'il s'agit d'une évolution naturelle des choses à cause des menaces que la Russie fait peser sur la sécurité, déclare une lycéenne interrogée par DR, la radio-télévision publique du Danemark, qui estime tout de même que 11 mois, c'est une période assez longue, notamment pour celles et ceux qui veulent continuer leurs études. Il sera possible à l'avenir, note le journal Politiken, de devenir objecteur de conscience. En tout cas, le Danemark devient le troisième pays européen avec la Norvège et la Suède a exigé que les femmes servent dans les forces armées pour le service, rappelle la BBC. Le Danemark, pays de 6 millions d'habitants, a été l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine en lui fournissant des armes et en formant également des pilotes ukrainiens sur des avions de guerre F-16 de fabrication américaine.
À Gaza, Catherine, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens déplore un mort.
Après une frappe israélienne sur l'un de ses entrepôts d'aide humanitaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, une vidéo diffusée par la chaîne qatari Al Jazeera montre des cartons posés sur le sol, maculés de sang. Un corps dans un linceul est sorti sur un brancard et des blessés sont soutenus par des habitants afin d'être soignés dans un hôpital voisin. L'armée israélienne dit avoir ciblé avec précision et tué un commandant du Hamas qui accaparait de l'aide humanitaire, rapporte le New York Times, mais selon les Nations Unies, un travailleur humanitaire a également été tué, 22 autres personnes blessées. Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dénonce cette attaque contre l'un des rares centres de distribution dans la bande de Gaza. Elle survient alors que les réserves de nourriture s'épuisent, que la faim est généralisée dans l'enclave palestinienne et que dans certaines régions, elle tourne à la famine. Depuis le début de la guerre à Gaza, 165 membres du personnel de l'UNRWA sont morts, explique le New York Times. Alors que l'armée israélienne envisage d'inonder Gaza d'aide humanitaire, comme l'a annoncé hier soir son porte-parole Daniel Hagari, cité notamment par le journal israélien Haaretz. Cette décision fait suite à d'intenses pressions internationales sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, provenant notamment de Washington, Londres et Bruxelles, rappelle le New York Times. De son côté, le Jerusalem Post se demande si cette guerre à Gaza ne sera pas le Vietnam d'Israël.
Et vous concluez votre revue de presse, Catherine, avec tout autre chose, quelques mots de science, avec une vidéo, disons, étonnante.
Et je me suis demandé, Julie, comme les journalistes de CBS, si c'était une blague ou bien si le film d'animation Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson était devenu réalité. Aux États-Unis, les vétérinaires du Richmond Wildlife Center en Virginie ont décidé de porter un masque de renard pour nourrir au biberon et soigner un minuscule renardeau d'à peine 80 grammes, comme l'expliquent le Washington Post et NBC News, vidéo à l'appui. Ce déguisement et les gants que les vétérinaires portent aussi doivent empêcher l'animal élevé en captivité de trop s'attacher aux humains. Cette stratégie fait écho, selon NBC News, à une action menée dans un sanctuaire chinois avec des employés, déguisés cette fois en pandas. Les animaux sauvages ne doivent pas associer humains et nourriture, précise la BBC. Ils doivent conserver un instinct de méfiance face à nous.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, Mélanie Chalandon consacrera sa table ronde d'actualité à Haïti, dont le Premier ministre Ariel Henry a démissionné hier et où la violence explose. Précédée d'un retour de Géorgie, la journaliste Julia Pasquale est allée auprès de ceux qui ont dû rentrer en Géorgie suite à une obligation à quitter le territoire. Dans un instant, les midis de Culture.